Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous pour la prochaine heure. Et c'est cette journée dans le mois où je ne suis pas seul et où je n'ai pas qu'un ou deux invités, mais j'en ai trois. Mes trois libraires et peut-être les vôtres. Alors, Jérôme Vermette, salut.
Bien le bonsoir, Raymond.
Marco Duchesne, salut.
Bonsoir.
Et Édouard Tremblay, bon matin.
Salut Raymond, salut à tes auditeurs.
Alors évidemment, puisque Édouard, Jérôme et Marco sont avec moi, bien, vous comprenez bien qu'on est en mode club de lecture cette semaine. Je vous rappelle le concept, si par un pur hasard, c'est la première émission de La Vie en BD que vous écoutez. Eh bien donc, un concept très simple, nous sommes quatre, et nous aimons nous battre, non? Nous sommes quatre lecteurs passionnés de bande dessinée, et nous nous rencontrons une fois par mois pour discuter, échanger autour de quatre titres qui ont été sélectionnés par l'un d'entre nous. Alors, une belle opportunité pour nous d'échanger des perspectives, de creuser, de se tirer les cheveux, d'analyser, de ressentir, bref, autour des lectures. Et ce mois-ci, eh bien, c'était au tour de Marco Duchesne de faire la sélection, une sélection qu'il a intitulée « Les mutants ». Je mentionne les quatre titres qui étaient en lecture, j'aurais presque envie de dire au ballottage cette semaine, mais non, en lecture cette semaine. Et Marco, comme d'habitude, après la présentation, tu prends le relais et tu nous expliques pourquoi tu nous as fait lire ça. Et ensuite, ben, on en discute au fil de l'émission. Alors, les quatre titres qui étaient en lice, des formes hybrides, pourrait-on dire, donc Barney et la note bleue de Philippe Parigot et Loustal, c'est chez Casterman. Hans Ketchum Complete, Denis de Menace, 1951-1952 de Hans Ketchum, donc compilation qu'on retrouve chez Fantagraphic. La passion d'un homme de Franz Masrel, qui est tiré d'un recueil qui s'appelle Gravure Rebelle, qui est disponible à l'échappée. Et enfin, La cage de Martin Vaughn James, qui est disponible en version francophone au Québec chez Mécanique Générale, en Europe aux impressions nouvelles. Alors, c'est les quatre titres. Et Marco, on te regarde tous maintenant. Pourquoi avons-nous lu ces titres?
Bien, parce que, encore une fois, mes thèmes et mes choix virent toujours autour de qu'est-ce que la BD, qu'est-ce qui fait que la BD se différencie des autres formes d'art, que ce soit littéraire ou visuel. Alors, c'est toujours par rapport au code ou narration. J'aime bien choisir ces thèmes-là comme pour approfondir mes connaissances et me nourrir de ce que les autres pensent et ont vu. C'est tout bonnement égoïste. Mes quatre choix ce soir sont basés sur la définition de la BD. Je me suis fait au cours des années une définition personnelle que j'ai pigée dans à peu près tous les livres de référence que je pouvais connaître. Et cette définition-là va comme suit. La BD est une histoire ou un récit raconté dans une succession d'images qui donne l'impression de mouvement. Le texte et l'image sont indissociables. Ça a toujours été ma définition. Et souvent, et aujourd'hui encore, de plus en plus, il y a des expérimentations qui se font. Alors, mes quatre choix ont été des choix par rapport à cette définition-là et qui ont marqué l'histoire de la BD. Je les ai appelés mutants parce que effectivement, on va le voir, vous allez le voir si jamais vous les consultez, ils dérogent à soit une ou l'autre des parties de la définition. Je vais y aller chronologiquement. Ce qui est un peu plus, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir l'évolution de la mutation des albums. Le premier, dans les années 20, un Allemand, Franz Masrel, a décidé de raconter des histoires en images. Alors, il raconte des histoires avec une image par page. Et c'est un artiste, c'est un lithographe. Alors, il fait de la gravure sur bois pour faire l'impression sur les pages. Une de ses premières œuvres, c'est « La passion d'un homme ». Cette histoire raconte la vie d'un homme, de sa naissance à sa mort, en 25 images. Il y a une image par page. Alors, la sélection des images, évidemment, sur 25 pages, la définition le choix qu'il fait des images pour raconter est important. Dans les années 20, et il a continué à produire ce genre d'œuvre tout au long de sa carrière. Il y en a toute une il y en a toute une série. Maintenant, on peut les retrouver en version française, même s'il n'y a pas de texte. C'est une maison d'édition, je ne me rappelle plus du nom, mais beaucoup de ces, dont La Muse, dont L'Idée, c'est d'excellentes œuvres. Mais j'ai choisi cette-là parce que c'était sa première, une de ses premières. Ensuite arrivent les années 50, où chez les Américains, c'est le comic strip qui est à l'honneur. Alors, j'ai choisi Denis la Menace. Là, je m'excuse, j'ai choisi une version anglaise parce que du côté francophone, les rééditions des comic strips et de cette époque-là sont très rares. Alors, j'ai choisi Denis la Menace parce que les comic strips ont toujours été des histoires racontées en une seule bande, c'est-à-dire en trois ou quatre images. Un gag paraissait tous les jours en quatre cases, tout dépendant des personnages. Et là, c'était le format que les journaux plaçaient. Mais Hank Ketchum a décidé de raconter les exploits de Denis, ce petit garçon, ancêtre de Calvin, en fait. Ce petit garçon qui est à son époque, dans les années 50, et d'un tempérament très joueur et qui cause un peu de soucis par ses mauvais coups. Le choix de Hank Ketchum de raconter ses histoires, en fait, c'est une seule image avec la réplique d'un personnage en dessous de l'image. Donc, déjà là, on voit la mutation, même comparé à Masserelle, on voit déjà quelque chose qui joue autour. Pourquoi c'est de la BD et pourquoi ça n'en serait pas? On en discutera. Arrivent les années 60, la fin des années 60, début 70, un Britannique du drôle de nom de Martin Vaughan James arrive au Canada. C'est un artiste, mais qui s'exprime par la BD à une époque où là, l'underground est en train d'émerger, il est en train de raconter des trucs, il fait partie de revues un peu underground, un peu... Et là, il va se mettre sur un projet de raconter une histoire avec une image par page ou parfois une image sur deux pages avec 100 personnages, 100 histoires comme telles, avec une image et le texte au-dessus. Alors là, effectivement, là, on a une succession d'images, mais on n'a pas de personnages, on n'a pas... Là, toute la narration joue sur cette succession d'images-là et le texte, qui est indissociable. Rappelez-vous de la définition, texte et image sont indissociables. Et finalement, arrivent les années 80, où Loustal et Parrain-Go était chroniqueur chez Rock'n'Folk, je crois, à l'époque. Et Jacques Loustal était dessinateur, artiste, peintre, affichiste. Et il s'associe avec Parrain-Go. Loustal s'associe avec Parrain-Go pour raconter une histoire, Barney, la note bleue. Et dans cet album, là, on a un format un peu plus BD, avec des personnages, avec une histoire, une succession d'images qui suivent. Mais il n'y a pas de phylactère. Il y a un texte qui accompagne chaque image. Un narrateur va raconter la vie de Barney, qui est en fait un saxophoniste, la vie trépidante d'un musicien de jazz qui pouvait vivre avec un tantinet polar, un tantinet atmosphère, roman noir. Et Loustal le raconte, succession d'images, avec le texte de Parrain-Go au-dessus. Voilà. Alors, c'est mon choix. Maintenant, discutons de cette mutation.
Oui. Tout d'abord, Marco, hein, merci en passant pour cette espèce de panorama du 20e siècle que ça nous a offert, honnêtement. Déjà en partant, c'est l'aspect qui m'a le plus fasciné dans les quatre lectures. On est passé à travers plusieurs décennies. Là, honnêtement, c'était juste là-dessus. En partant, ces quatre lectures-là sont fascinantes pour cet aspect-là. Est-ce qu'on devrait y aller par ordre chronologique? Je dirais que moi, ça serait le plus simple d'une certaine manière. La plus récente que j'ai lue, en plus, étant La Passion d'un homme, là, 25 images de La Passion d'un homme. En passant, Marco, là, je vais faire quelque chose que je n'aime pas faire, mais je vais te corriger. Mesrel est belge et non pas allemand.
Ah, OK.
mais
non, mais... Tu as à le faire, là. Alors, ben, il n'y a pas de problème.
C'est une blague, mais juste pour dire que quel fichu bel album en passant, là, que ce 25 images de la passion d'un homme, où chaque image est une histoire en soi, pratiquement. Hein, dans certains cas, même, il y a plus qu'une histoire à l'intérieur d'une même image, là où. Ou par exemple, on voit des gens à l'arrière dans le décor qui font autre chose que de s'intéresser à l'action principale de l'homme dont on suit le destin du ventre de sa mère jusqu'à sa mort, là. C'est peut-être intéressant aussi de le remettre. D'ailleurs, je me suis beaucoup intéressé un peu à l'histoire de Mazerelle parce que j'ai trouvé cette œuvre-là vraiment intéressante à regarder. Et ce qui explique probablement son caractère mutant, c'est que Mazerelle n'était pas un artiste de la bande dessinée en tant que tel, plutôt qu'un illustrateur et un graveur. Et il a eu l'idée, ni plus ni moins, de mettre ses gravures, de dire je vais compter une histoire avec des images une après l'autre. Mais c'est de remettre en plus de ça cette histoire-là dans l'histoire des grèves qu'il y a eu justement de la. Vers la fin de la Première Guerre mondiale, où des gens ont carrément arrêté de vouloir produire de l'armement. Bon, à la base, c'était pour leur salaire, mais en même temps, ça a comme causé des problématiques autres, là, mais évidemment. Mais ce qui fait penser, on peut faire un lien avec une des images où on voit des soldats briser leurs fusils pour se joindre aux ouvriers vers la fin, là. Le personnage étant pratiquement christique, ni plus ni moins, là. Ce qui est très fort dans cette histoire-là, en 25 images, c'est qu'elle raconte une histoire complexe, l'histoire d'une vie, ni plus ni moins, avec un caractère social fort, celle des ouvriers. Donc, on a un personnage presque qui pourrait sortir d'un roman de Dickens, pratiquement. Et ajoute à ça, moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est là, c'est mon côté amateur de cinéma de plus de 100 ans. L'œuvre de Mazerelle est très, très expressionniste, avec ses noirs et blancs très francs qui sont probablement rendus à sa gravure. Et puis, même la manière de faire des décors. Écoute, il y a même une image. je ne sais pas, ceux qui parmi les auditeurs et parmi vous ont vu Caligari, mais il y a même une image où on voit le personnage principal embrasser une femme. Donc, il rencontre l'amour avant qu'il fasse son combat, ni plus ni moins... syndicaliste, là. Mais l'image de la ville à l'arrière, on dirait qu'elle est sortie tout droit de Caligari, du décor que Robert Vine avait fait pour son chef-d'œuvre de 1919. Donc, on est à la même époque en plus. Et ça m'a bouleversé de voir toutes ces images-là fitées avec l'époque, tant au niveau social qu'au niveau artistique. Donc, il y a carrément une espèce de bouillon de culture très puissant dans cette œuvre-là, remarquable, honnêtement, là.
En fait, je te rejoins, puis pour les auditeurs qui ne nous voient pas, en fait, Édouard et moi, on devine la tête à peu près sporadiquement, à peu près à tout ce que tu dis. C'est le genre d'ouvrage, et je te rejoins un peu là-dessus sur l'idée de remercier Marco, parce que, sincèrement, on a un véritable parcours historique aux frontières, en fait, j'ai l'impression, de la BD, avec des artistes qui ne viennent pas du médium BD ou qui ne venaient pas, dans une certaine mesure, en fait, pas pour les quatre, on s'entend... mais à tout le moins pour ceux-là, pour ceux du début. Et dans ce cas-ci, ben, c'est une œuvre qui, d'un côté, renvoie et pousse à la recherche. Je veux dire, on ne peut pas rester simplement sur l'impression des 25 planches. On les lit, on les observe, on les regarde, et ensuite on plonge, on essaie de le mettre en contexte historiquement, on essaie de le mettre en contexte artistiquement pour bien le situer d'un côté et parce qu'on a envie d'en savoir plus, parce qu'on a envie de savoir qui est cet homme qui, à une époque si éloignée, je veux dire, ils ont 102 ans, ces planches-là, actuellement, a réussi en 25 planches, d'un côté, à synthétiser la vie d'un homme en période marquante, dans un deuxième temps, à le synthétiser dans des images qui, en noir et blanc, hyper saturées, réussissent à passer autant de richesse, autant d'émotion, autant de complexité. C'est assez hallucinant, et je lisais ça et je me disais, pourquoi j'ai échappé ça, si on peut dire, ce texte-là? D'où ça sort? Pourquoi je l'ai manqué? Et Dieu merci, je me rattrape un peu aujourd'hui en plongeant un peu dans ça, mais c'est dur de rester insensible. Je ne sais pas, Édouard, si de ton côté, parce que je pense que je rejoins un peu Jérôme là-dedans, mais c'est comme dur de rester insensible face à ça, là.
Si vous vous souvenez, il y a peut-être 2 ans, quand on a échangé les cadeaux de Noël entre nous, Club de lecture, je suis devenu, par le truchement de Marco, le gardien de la BD L'Idée de Masserel. Et c'est comme ça que j'ai eu mon premier contact avec le génie, parce qu'il faut carrément l'appeler comme ça, le pur génie de cet homme-là. Et je l'ai retrouvé là, dans La Passion d'un homme. J'aime la référence, d'ailleurs, christique que fait Jérôme, puisqu'on entend bien ici la passion au sens biblique, un peu comme la passion est du Christ, non pas, disons, le fanatisme ou bon, l'amour de quelque chose, c'est vraiment la passion au sens vraiment biblique.
Christique dans le meilleur du terme, en fait.
Oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Dans cette incomplète absence de texte, qui est de toute manière ici absolument inutile, justement parce que la richesse de l'image nous parle, et bien, j'en suis arrivé au terme de tout ça, justement, à me dire, bien, je viens de lire un roman de 25 chapitres. Ouais. Chaque image est un chapitre en soi, parce qu'il y a tout, justement, dans cette richesse-là, tout ce qu'il raconte, tout ce qu'il suppose, tout ce qu'il laisse sous-entendre. S'il fallait, je ne sais pas, imaginer quelqu'un comme, je ne sais pas, Zola, tu sais, qui pourrait écrire un roman comme ça, je veux dire, ça prendrait 25 chapitres pour en arriver à ça, là. Et c'est là la force d'évocation de l'image de Masserel, qui n'a pas besoin de texte, qui n'a pas besoin de rien. Je veux dire, c'est une prouesse.
En fait, l'image se suffit en elle-même. C'est ça qui est hallucinant. Et je veux dire, avec une illustration, dans le contexte de celle qui vient, de celle qui suit, mais plus dans un temps qui est très élargi, je veux dire, l'ellipse entre les images est quand même prolongée, là. Mais il y a tellement là-dedans, c'est hallucinant.
Cette histoire-là nous oblige à faire ce que la bande dessinée, finalement, pour revenir un peu au thème central de Marco qui s'intéresse, il nous le rappelle toujours, à la narration dans la bande dessinée. Elle nous oblige à faire ce que toute bande dessinée nous oblige à faire, mais celui-là, les ellipses sont plus complexes, sans être inatteignables. C'est qu'on est obligé de penser à ce qui se passe dans les gouttières également, entre telle, entre chaque page. Mais pour montrer à quel point cette œuvre-là est d'une puissance évocatrice, je pense toujours aux deux images particulières où, si ma mémoire est bonne, sont une après l'autre. On voit le personnage après avoir fait la fête, il est en train de lire un livre sous un lampadaire. On peut facilement imaginer qu'il s'agit là d'un texte contestataire. On n'en voit pas le titre, mais on est capable d'imaginer, à cause de ce qui se passe après, à cause de ce qu'il a vécu avant. Il y a une autre image où on le voit quitter en réfléchissant. Là, il quitte la ville, puis il fait juste réfléchir et on a les pensées. Tout lecteur attentif de tout ce qui s'est passé avant va avoir les pensées et tout ça.
Oui, parce qu'au-delà de la vie, dans le fond, de l'action du quotidien où il rencontre, il travaille, etc., mais ce qu'on assiste et ce qu'on découvre est dans la passion donc d'un homme, c'est essentiellement une construction intellectuelle d'abord, puis après ça, une construction intellectuelle qui amène des prises de position, qui amène une mise en action, mais on passe par le muet en quelques images et on comprend comment une pensée se construit. Et on se reporte à l'époque parce que là, on est quand même dans les années quoi, 1914-1918. On est à une époque où il y avait justement ces courants de pensée-là qui étaient en train d'émerger, mais où on n'avait pas le recul que nous, on a aujourd'hui non plus pour percevoir ou comprendre ou saisir l'évolution sociale qui est en train de se vivre à l'époque. Et dans ce cas-ci, avec le recul, on découvre et on perçoit bien le côté anarchiste, le côté antifasciste, le côté socialiste peut-être de cette œuvre-là. Et reporté dans son époque, mais on réalise aussi à quel point, d'un point de vue intellectuel, c'était une œuvre qui était forte. Et je pense que ce n'est pas une œuvre non plus qui est passée inaperçue à l'époque. C'est une œuvre qui avait été lue aux côtés d'autres ouvrages qui ont contribué, dans le fond, je pense, à...
Masserel a fait les galeries d'art aussi. Ça, j'ai lu un peu sa biographie parce que cet artiste-là m'a intrigué après la lecture que nous en a fait faire Marco. Là. Il a fait les galeries d'art. Son éditeur pour des œuvres comme celle-là, c'était le même que Kafka en Allemagne. Donc, il n'était pas dans les circuits hors normes. Hein. Et puis... ce qu'on nous voit, là, d'ailleurs, de ce que j'ai lu, c'est ce qu'on a la chance de voir, justement. C'est quelque chose qui a été retrouvé par pur hasard, pratiquement, parce que les nazis avaient détruit sa maison et les maisons d'édition où son œuvre se trouvait. Mais donc, on a une certaine chance, là, ni plus ni moins. Mais je trouve que cette histoire-là, malgré le fait qu'elle s'apparaît probablement à cause de l'expressionnisme, qu'elle date de 1918-19, je ne me rappelle plus la date exacte, là, à cause de son thème, elle reste universelle 102 ans plus tard. Quand on voit là-dedans le personnage principal côtoyer les autres travailleurs comme lui, mais qui aussi se promènent à travers les gens plus riches et qui sont tous dessinés d'ailleurs bedonnants, donc ils sont prospères, ben, c'est encore ce qu'on voit, hein, ni plus ni moins, puis les gens ont besoin de se faire entendre et tout ça, et c'est un peu ce qui montre d'avoir un peu le courage. C'est pas une œuvre... Pas une œuvre pathétique, hein, malgré tout. C'est plutôt héroïque.
Puis tu parles au niveau thématique, mais à la limite aussi, j'aurais envie de dire, sur le plan visuel, je veux dire, c'est quand même assez abouti d'un point de vue visuel, les tonalités, les choix. Et sincèrement, encore là, tu ne m'aurais pas dit que ça datait de 1918. Tu m'aurais dit que ça aurait été plus récent. J'aurais été ouvert à ça. Il y a un côté aussi, une certaine universalité temporelle dans l'approche visuelle, dans les choix que cet auteur-là a fait, qui accentue un peu le côté intemporel. Je veux dire, on sent la temporalité parce qu'il y a des éléments un peu qu'on rapporte à l'époque, mais encore là, ça peut nécessiter une certaine recherche parce que d'un point de vue thématique, comme tu disais, Jérôme, ça ramène à quand même une construction universelle, une rébellion universelle qui a des faits d'époque en époque puis qui sera sûrement encore le fait d'époque à venir. Et d'un point de vue stylistique, ben, il y a aussi cette intemporalité-là qui s'installe.
D'ailleurs, si on regarde le bouquin dans lequel c'est inséré la petite histoire, il y a trois autres auteurs qui, à différentes époques, des années 50 jusqu'aux années 70, qui avaient opté pour cette façon de raconter en images des histoires. Donc, il y avait quand même un courant, peut-être pas populaire, mais il y avait quand même un courant artistique qui avait décidé d'utiliser cette façon de raconter. Et la force de Mesrel, c'est 25 images, et c'est vrai que l'ellipse, elle est grande entre deux images, mais moi, ce que j'ai trouvé, c'est que le mouvement, l'impression de mouvement dans les successions d'images, elle est dans l'image.
Oui.
On se dit que, tu sais, on voit Mesrel en train de gosser son bout de bois où il va faire son image. Il n'y a rien de plus statique que ça. Là, le bout de bois, là, c'est pas comme un dessinateur qui, lui, va faire des courbes puis tout. Non, lui, il gosse un bout de bois, puis il fait l'image, mais ces images, parce que ce que disait Jérôme au début, là, il y a le personnage qu'on suit, mais derrière, il y a un décor, derrière, il y a une action. Et tout ce mouvement-là est à l'intérieur même de l'image. Je trouvais que ça rejoignait un peu ce qui m'avait impressionné chez Franquin dans les Gastons. Dans les Gastons, chaque image a du mouvement. Alors, pour Mesrel, c'est ça. Et cette ellipse-là longue, d'après moi, ce qui se fait dans notre tête... cette impression de mouvement-là est accentuée par l'image de chaque image.
C'est parce qu'il y a une fluidité, dans le fond.
Oui, mais c'est d'autant plus intéressant, je pense, justement, parce qu'en vertu de cette intemporalité-là et de ce mouvement interne-là, si on le compare, par exemple, à Denis Lamalis, on va voir justement que ces deux points-là entrent complètement en contradiction avec l'œuvre de Mesrel, par exemple. Je m'explique dans la mesure où, ici, dans les vignettes qu'on a dans les histoires de Denis Lapitpèce, de Denis Lamalis, c'est le texte qui vient nous donner l'avant et bien souvent l'après. Si on n'a pas ce texte-là, on n'a qu'une scène figée et d'autant plus difficile, justement, et c'est là que je parle de l'intemporalité de Mesrel par rapport à Denis Lamalis, parce que Denis Lamalis est bien inscrit dans son époque, et donc l'interprétation, à mon avis, peut être d'autant plus dure que, par exemple, un petit gars aujourd'hui ne se fait plus laver la bouche avec du savon, parce que c'est un cas de DPJ, on s'entend, là. Mais donc, de voir un petit bout de 5-6 ans courir en faisant des bulles de savon, je me demande comment un jeune aujourd'hui va nécessairement faire le lien. Tu sais, bon, au-delà, parce que ça reste que c'est très, très typé, là, je veux dire, c'est la famille.
C'est très de son
époque. Il ne peut pas avoir plus typé que ça, là.
C'est très époque des débuts des banlieues, là, de Denis Lamalis, là, c'est... En même temps, c'est jouissif, là, sérieusement, comme humour, là, je trouve, là. Mais tu as tout à fait raison, Edouard. Si on revient à la question du mouvement de Marco, cher à Marco, dans le pourquoi il nous fait lire ces histoires-là, Denis Lamalis, c'est ce qui se passe avant puis après, puis c'est le texte qui fait le mouvement, tu as tout à fait raison, mais à cause peut-être du trait du dessinateur, là, Ketchum, je ne sais pas trop, il y a quand même, je trouve, un certain mouvement là-dedans de vivacité là, dans ses dessins en tant que tel, ses illustrations et le texte qui accompagne, ça accentue ni plus ni moins le sens de l'humour de Ketchum. Là.
Oui, ben en fait, j'ai l'impression qu'on arrive puis qu'on est en plein milieu d'une action, en fait, c'est qu'il y a un après, il y a un avant, et que la case qu'on nous offre, c'est le moment, c'est comme une photo qu'on prend, mais qui est en plein mouvement, justement, qui n'est pas, c'est pas statique, même si c'est juste une image.
En fait, le truc, il y a deux choses, l'impression de mouvement, le texte-image, c'est sûr, sûr. Mais en fait, l'image ne raconte jamais le mauvais coup. Le mauvais coup, soit il est passé, ou soit il est à venir. Et c'est là que ça se fait dans notre tête, le mauvais coup. Parce qu'il n'est jamais, on n'est pas en pleine action, Denis. Le petit Denis, là, il n'est pas en pleine action. Là. C'est-à-dire qu'il parle à des gens qui vont faire telle affaire et on le voit venir, ou c'est passé puis il subit les conséquences. Mais dans le trait de Ketchum, je pense, moi, le fait que le texte n'est jamais une narration, c'est toujours une réplique. Ketchum a la maîtrise du dessin, du faciès et de la bouche. Et ça, c'est très rare en bande dessinée. Et on associe... Il y a comme un mouvement dans le texte, la réplique. Moi, j'avais l'impression... J'ai toujours l'impression d'entendre les personnages directement avec des voix. Moi, je trouve que c'est une de ses grandes forces au niveau du dessin puis du style.
Et Marco, en fait, je te sentais conclure un peu sur cet élément-là, mais peux-tu aller un peu plus loin sur ce que tu nous disais, là?
En BD, il y a une chose qui est difficile à rendre, et c'est pour ça qu'on a créé les onomatopées. Le son que font les bruits, les choses. Et le phylactère représente la voix. Mais le phylactère est directement... Les personnages sont dessinés en fonction de la bouche ouverte. Le son, c'est dur à rendre en BD. Moi, je me rappelle une fois Gazotti dans un soda, sa narration faisant en sorte qu'à un moment donné, on voyait le personnage à l'intérieur d'une voiture et la vitre baissait et il n'y avait pas d'onomatopée. Et j'entendais le son que la vitre faisait. Et c'est la même chose pour Hank Ketchum quand le texte et l'image sont indissociables au point que son dessin rend, même si le phylactère, il n'y a pas de phylactère directement là. Moi, j'ai presque le son. J'ai presque l'impression de mouvement qui me donne l'impression du son. C'est pour ça que j'ai toujours adoré ce...
En fait, il réussit à narrer en séquence sans la séquence.
Sans la séquence, c'est ça qui est extraordinaire.
Tout à fait. C'est comme si c'est ça finalement, pareil comme quand on lit n'importe quelle autre bande dessinée où on fait les liens entre les cases. Dans l'esprit du lecteur, il se passe une série d'images qui accompagnent celles qu'il voit avec le texte. Puis c'est ce qui rend ça si pétillant, en fait. Et puis, soit dit en passant, d'ailleurs, pour les lecteurs, pour ceux qui nous écoutent, Denis Lamalice, ça a beau avoir l'air de son époque. Ça reste franchement encore très drôle à lire, là, honnêtement. Oh,
oui. Très, très drôle, puis attachant, je veux dire, dans la personnalité du bonhomme, la personnalité de la famille. Bon, c'est sûr qu'on est dans une enfance à l'hollywoodienne. Là. C'est un enfant qui n'existe pas, qui ne se peut pas, qui fait des choses qui ne se peuvent pas, mais c'est pas grave. On embarque, et effectivement, ce côté-là, si on fait abstraction des éléments d'époque que tu disais tantôt, Jérôme, reste que la balance vieillit bien, et c'est pas pour rien non plus que ce personnage-là a persisté d'époque en époque, a été adapté, revendu, détourné, etc. C'est parce qu'il y avait quand même une richesse là-dedans, mais en retournant un peu à la source, au départ un peu, en faisant abstraction du monstre que cette série-là est devenue au fil des décennies, bien, on retrouve justement une belle simplicité, j'aurais envie de dire une belle sincérité aussi, peut-être un peu là-dedans, mais dans les gags, dans la maîtrise des mots, dans la précision de ce qu'on amène, parce qu'on n'a quand même pas grand-chose pour faire rire au bout du compte. Des fois, il va mettre deux cases, des fois, il va en mettre un petit peu plus, mais sinon, c'est généralement une phrase, une image, puis on réussit à puncher avec ça, puis à faire que ça marche, et à faire qu'on s'attache au personnage.
c'est cette efficacité hein, de cette dynamique entre le justement entre le texte et l'image, qui est, je pense, centrale aussi dans tout ce qu'on touche aujourd'hui, tu sais, dans le club de lecture, et qui est, je pense que là-dessus, vous serez d'accord avec moi, aussi déroutante lorsqu'on s'attaque justement à quelque chose comme la cage. Bon, au-delà de l'époque, hein, des années 70, on peut comprendre parce que on le voit aussi parallèlement dans le manga japonais, on est à une époque d'éclatement complet, on essaie un paquet de trucs, le médium évolue, change de forme, on tente des trucs et avec la cage... bon, au-delà du justement bon, de l'histoire que je n'ai peu ou pas saisie, il y a quand même cette espèce de double perspective qui, justement, met complètement en dichotomie le texte et l'image. C'est-à-dire qu'avec l'image, j'ai l'impression vraiment d'une plongée presque voyeuristique, presque un plan long, Orson Welles, un grand plan séquence et qui rentre au cœur de quelque chose, alors que le texte me donnait lui plutôt l'idée d'une extériorisation, c'est-à-dire de quelque chose qui brûle en dedans de quelqu'un, bon, que lui voit, que lui ressent, que lui et qu'il j'oserais pas dire vomit, mais presque régurgite en fait pour le sortir de lui-même. Je sais pas si c'est moi qui étais affecté par quelque substance à cause, mais c'est comme ce double sens qui, je trouve, rentre justement en cliché et qui est intéressant de mettre en parallèle justement avec Masserelle qui, lui, n'a pas de texte, et Denis Lamalice, où là, le texte vient en parfait complément de l'image qui est posée. Là, on est vraiment, en tout cas à mon avis, dans une opposition complète, presque complète.
Ben en fait, ce qui est décontenant, c'est l'absence de personnages au bout du compte, peut-être parce que tu réalises qu'en bande dessinée, tu réfères quand même à quelque chose pour sentir qu'il y a une situation qui évolue, qui progresse. Mais là, tu n'as pas d'éléments, il n'y a pas de personnage qui évolue, qui amène l'action. Et il y a un côté un peu, disons, le lit qui est dans une séquence, ben comment lui évolue, c'est l'objet qui évolue, c'est le lieu qui évolue, et c'est le lieu qui amène un peu cette action-là, à la limite.
C'est pas tout à fait vrai qu'il n'y a pas de personnage, parce que quand on lit la préface de l'auteur, il dit lui-même qu'il veut mettre le lecteur à la place du personnage principal. Et donc, on est dans ce que, comment il appelle ça déjà, le point de vue subjectif, là, finalement.
First point of view, oui. Ouais,
c'est ça, exactement, là, qu'on voit dans le cinéma de genre. Mais moi, puis je te rejoins, là, Édouard, là-dessus, entre autres, c'est qu'on a l'impression que effectivement et le texte, et l'histoire visuelle sont deux choses totalement dissociées. Puis ça m'a rappelé un peu la description que Malraux faisait du surréaliste, parce que pour moi, la cage est purement surréaliste. C'est que tu peux décrire le surréalisme comme étant deux images qui se rentrent dedans. Puis il y a certaines des images dans la cage où on a l'impression que c'est ça. Parce que des fois, il n'y a même pas tout à fait de lien où tu as l'impression que le personnage principal, le lecteur, s'approche de quelque chose qu'il y avait dans une case plus grande. Mais cet objet-là a déjà changé relativement de nature, puis il s'est rajouté d'autres affaires. C'est complètement farfelu comme univers en tant que tel. Et en même temps, l'attention qui est portée à chacune des planches par le dessinateur, parce qu'on s'entend qu'elle est bourrée, chacune d'entre elles sont bourrées de détails, nous oblige à la regarder attentivement, y chercher un sens, à se demander en fait si la fameuse cage, c'est justement pas ça, l'absence de sens, à toute fin pratique.
Ou le côté claustrophobique qui ressort du livre, statique, ça revient au repère que je disais tantôt, dans le fond, où on n'a pas d'élément qui est en mouvement, où tout ce qui nous entoure est complètement statique, immobile, mais par contre, il y a des évolutions, tu sais, mais c'est l'environnement qui évolue, qui se remplit de sable.
Il y a du mouvement, par exemple, il y a du mouvement. Ouais. Il y a du vent, il y a des choses comme ça.
Oui, mais tu sais, je parle de manière absolue. Là,
les angles changent tout d'un coup comme sont tombés.
C'est complexe comme relation. En fait, c'est difficile de définir la relation qu'on entretient avec un ouvrage comme ça.
Du mouvement, dans le sens que... Et je pense on a dû probablement tout faire l'exercice à la lecture de ça. Il y a du mouvement parce que on regarde l'image, on regarde le texte, on regarde s'il va, on cherche l'élément que peut-être que. Non, attends, on revient au texte et il y a du mouvement là. Mais moi, j'avais mon hypothèse. À la relecture de ça, je pense que la clé est les deux premières pages. où les deux images, c'est à peu près la même, c'est-à-dire que quelqu'un dehors avec un grillage, on voit un peu la cave, mais on voit le grillage. Et la deuxième, il y a l'extérieur, une espèce de désert. Et là, la deuxième image, c'est comme si on avait un panoramique là, avancé. Là. Et là, le grillage est plus gros et tout. Et il y a une page blanche. Moi, j'avais l'impression que le narrateur, le personnage qui est nous à la lecture, on était dans la cage, on s'approchait un peu de la cage et la page blanche était, on ferme les yeux et le reste va tout se passer à l'intérieur. Les sons, le texte, et comme si on recevait des sons et tout, parce que si vous avez remarqué, les images ont beaucoup d'appareils, de haut-parleurs, d'appareils qui ont un rapport au son, à la musique. Et là, c'est comme si le narrateur, les yeux fermés, essayait de détecter ces sons-là à l'intérieur de... Et moi, ça m'a fait avancer un peu comme ça. Et tout ce mouvement-là, à chercher les éléments, puis à travailler dans ma tête, ça, je trouvais que c'était le mouvement.
En fait, on le cherche, le mouvement, puis on le crée par la recherche, puis on va chercher des éléments qui nous permettent d'avancer, de cheminer, un peu comme le personnage chemine aussi, ou comme nous cheminons dans le livre. En fait, on est vraiment dans une belle expérimentation avec un ouvrage comme ça.
Ce qui ne serait pas en inadéquation, je pense aussi, avec justement le côté un peu, des fois, délabré des bâtiments, justement, bon, évidemment, ou leur côté abandon, je veux dire, dans la même mesure, justement, que ça renvoie à l'idée d'une cage, justement, d'une prison de l'esprit. Je pense au Vagabond des étoiles, tu sais, de London, où le type, justement, s'évade dans ses vies antérieures, alors qu'il est enfermé. Ou même du côté des fois, parce que j'ai retrouvé dans le trait des dessins, moi, beaucoup de, justement, le détail qu'il y avait, par exemple, chez Suero Mauro, celui qui avait fait la chenille, entre autres, cette charge de détails, mais justement, qu'on trouve aussi du côté très expressif, aussi japonais de l'époque, justement, cette espèce de succession. Pas nécessairement censé ou bon enchaîné au sens où on l'entend, mais avec cette impression constante qu'on fait traverser à travers l'œuvre. Et c'est justement, tu sais, dans la cage, c'est justement ce délabrement-là, qu'il soit même dans le texte autant, je pense, que dans que dans l'image. Et comme le filigrane qui nous traîne au-delà de tout, ouais. Ça. C'est assez...
C'est une œuvre très intoxicante, en fait, à la limite.
Puis j'ai l'impression, en fait, c'est le sommet d'une expérimentation, parce que James Vaughan James, en fait, c'est son quatrième, je pense, sa quatrième BD, au sens large pour BD, évidemment. Mais dans le fond, c'est le sommet un peu de cette expérimentation-là, parce qu'après ça, il est comme disparu du sérieux, il est retourné aux arts visuels. Avant, il venait des arts visuels, donc il y avait une escale un peu par la BD, un peu comme Masserelle avait fait une escale un peu de la gravure vers la BD. Donc, on a des gens qui viennent d'autres médiums, qui viennent s'approprier un peu les codes du médium, expérimenter, jouer un peu avec ça. Puis, je reviens parce que j'ai l'impression que je me fais une tête en jasant avec vous, mais utilise les codes du médium pour forger un peu une impression, un parcours sensible, sensitif. Je veux dire, on est ailleurs, on n'est pas... C'est pas le même genre d'expérience qu'on va avoir avec cette BD-là. Enfin, il y en a d'autres comme ça par après, mais on n'est pas dans l'expérience traditionnelle, dans le ressenti traditionnel non plus. Il y a quelque chose de viscéral, j'ai l'impression, dans ce qu'on vit quand on prend le temps de le lire convenablement, qu'on s'installe, qu'on plonge et qu'on cherche nos repères pendant les pages.
Et j'en profite encore pour faire un clin d'œil justement à ce que Marco disait par rapport au son, parce que bizarrement, moi, la cage, ça me fait l'effet d'un white noise, quasiment tout le long. Oui, il y a des haut-parleurs, mais c'est comme s'il n'y avait rien en arrière. Justement, à cause, encore une fois, de cette idée de délabrement, je vois, si vous me saisissez, là, alors que, au contraire, comment ne pas lire Barney et la note bleue sans entendre en arrière cet air de jazz qui est d'autant plus, je dirais, central que, bon, ici, on tourne autour justement de la vie d'un musicien de jazz, mais aussi parce que dans le côté de la narration, on a cette espèce de nature qu'on retrouve dans le film noir aussi, dans le film de détective des années 30.
Et pourquoi le jazz va si bien avec cette atmosphère-là? Hein?
Exactement, parce que ça prend du jazz et un narrateur externe qui nous raconte l'histoire comme ça le fait là-dedans, et ça le fait parfaitement. Moi-même, je l'avoue, je ne suis pas un gros fan de jazz, mais je veux dire, j'ai été touché par l'histoire, puis on ne peut pas l'avoir autrement qu'avec un air comme ça de sax en arrière, là. Extraordinaire.
Oui, mais je pense en fait que l'album au départ était accompagné d'un CD aussi qui permettait oui, justement de plonger dans cette ambiance-là. Là.
Barney, c'est un peu Barney Whelan, un saxophoniste ténor qui a joué entre autres avec Miles Davis, qui a participé à l'album, c'est-à-dire qu'il a fait un album avec tous les morceaux qu'on y entend. Et lui, son morceau à lui était Bozzam Mocho, celui qui est cité le plus souvent là, dans l'album. Et il existait l'album. Je me rappelle d'avoir couru ça parce qu'à une époque où Internet ne permettait pas, j'achalais mes disquaires pour avoir l'album. J'ai eu de la misère à l'avoir. Puis, c'est ça. C'est, en fait, c'est là, comme j'expliquais, puis de voir un peu l'évolution de la mutation, là, on a vraiment notre succession d'images. Et avec du texte, comme un narrateur qui raconte une histoire. Et à un moment donné... ce qui est raconté, on voit le décor, ce qui est raconté n'est pas nécessairement dans l'image. Et là, il se produit une espèce de chimie entre le texte et l'image. Et moi, c'est une des images qui me revient. On voit Barney dans une chambre d'hôtel avec une enseigne, mais le texte ne raconte pas du tout ça, là, une histoire de cigarette et tout. Et la magie opère, c'est comme dans les vieux films, effectivement, noirs, où l'image se déplace, puis on voit des choses, puis le narrateur donne ses impressions, ses émotions, ses sentiments, plus qu'il ne décrit la...
Oui, puis on pourrait avoir l'impression que ça pourrait fonctionner avec juste le texte ou avec juste l'image, mais en même temps, on perd l'essence d'eux, parce que justement, les deux se complètent, finalement, même s'ils ne réfèrent pas toujours exactement la même chose, puis... On n'aurait pas la richesse de cet ouvrage-là si on enlevait un ou l'autre en se disant que, de toute façon, ils peuvent être autoportants.
Il y a des ellipses entre les images aussi là, pour rester avec ce thème-là. Là, mais je pense que c'est le seul album que tu nous as fait lire cette semaine qui est en couleur, d'ailleurs. Je tiens à le souligner parce que la palette des couleurs est vraiment particulière. Elle accompagne... On dirait elle-même qu'elle est une forme de partition musicale tellement elle fit avec l'atmosphère du jazz, je trouve, en tant que telle, et des nuits endiablées du personnage principal. Il y a quelque chose qui touche dans cette bande dessinée-là, autant en se posant les questions de comme on fait là, de qu'est-ce qui se passe en termes de narration séquentielle avec le texte. Puis le récit qui est raconté dans la manière dont il est raconté, le trait, les couleurs, etc. La passion entre deux personnages qui ne s'accomplit jamais totalement. Je parle de la femme de son meilleur ami là, qui le suit un bout de temps pour vivre la vie gitane d'un artiste en tant que tel. Puis finalement, on croit comprendre que c'est peut-être le seul amour de sa vie. Tout ça, mais il y a beaucoup de... Je ne sais pas c'était quoi la trame sonore qui allait avec, qui était enregistrée par le jazzman lui-même, ce qui fait une drôle de mise en abîme parce que la bande dessinée donne l'impression qu'il meurt. mais on arrive à entendre une sorte de trame sonore jazz aussi, il me semble. Puis là, ça fait finalement un retour avec ce que tu disais sur le son. Au lieu d'imaginer les sons de ce qui se passe, moi, j'imaginais constamment une trame sonore jazz sur cette bande dessinée-là.
C'est difficile de s'en sortir. Vas-y, Édouard.
Oui, non, c'est inévitable. Et comme tu disais aussi, Raymond, comment on ne peut pas dissocier, je veux dire, ces images, il faut le comprendre, hein, c'est presque des... Il faut voir ça comme des tableaux, un peu. Je vois ça presque comme presque une exposition de peinture. Et donc, oui, ça nous raconte des choses, mais la narration est indispensable dans ce cas-là, parce que c'est sûr que pour comprendre le vécu des gens et tout, cette image-là va la, va la magnifier, va la figer dans un instant comme ça, comme le ferait un peintre, comme le ferait un photographe. Hein. On est presque à la limite du roman photo à quelque part. Et je ne parle pas de roman photo cheap, là, mais dans le sens plus noble du terme. La preuve, c'est que hein, ici, on a quelque chose d'absolument magnifique et qui évoque à quelque part aussi ça, justement, par ces images figées-là, par cette narration, comme vous êtes tout d'un bloc là, qui va aller nous mettre toute l'ambiance en contexte, tout le.
Il y a quand même des images d'une émotion très forte, hein, par exemple. Même hors du texte, là, je repense là. Pour deux amants, il y en a un qu'on sent déjà dans le regard qui est ailleurs, à jouer de son saxophone, puis la femme qui l'attend, même sans le texte, on arrive à sentir ça, là, par exemple. Mais tu as tout à fait raison. Si on compare, mettons, cette œuvre-là qui vient à la fin de notre ligne du temps, par rapport à Mesrel, qui lui arrivait à nous faire lire une histoire d'une vie complète, sans texte et avec quelques chapitres, celle-là. C'est plus effectivement.
Loustal, c'est plus un artiste qu'un BDiste. En fait, on sent l'influence de Hopper un peu avec ses images. Mais Loustal a fait quelques BD. C'est pas, il n'en a pas fait tant que ça dans sa carrière. C'est surtout un affichiste, c'est surtout un peintre et tout. Et à un moment donné, je me rappelle, est arrivée une première BD avec des phylactères. Et ça marchait beaucoup moins dans le sens que ce choix-là d'illustrer des images statiques, parce que si on compare les images de Masserelle ont beaucoup plus de mouvement. Dans ces images, Loustal est beaucoup plus statique. Et c'est pour ça que le texte sert bien, cette chose-là. Une narration en voix off, parce que elle agit comme narration-là, en voix off, agit comme pour raconter quelque chose par-dessus ces images. Et quand Loustal, à un moment donné, c'est les frères Kazarov, je pense, il avait fait un polar avec des phylactères, et là, on perdait un paquet de trucs. Bon, ça faisait comme briser, ça faisait comme venir dire, ben regardez, ça va être un peu plus dedans, mais ça ne l'était pas du tout. Ce qui fait qu'il en est toujours resté à cette façon de raconter-là.
Et il y avait cette efficacité-là aussi, Marco, souviens, peut-être aussi hein, Raymond et Jérôme, si vous avez lu l'adaptation de la loterie oui. Par Miles Heiman.
Oui.
C'était magnifique, ça.
Magnifique aussi, et qui marchait exactement sur le même mode, avec de belles peintures, appelons-les comme ça, hein, ou même l'œuvre de, voyons, le dernier Mohican de Cromwell. C'est le genre de récits, je pense, qui sont bien portés. Par ce mode narratif-là, je ne sais pas si justement d'avoir fait ces récits-là avec une enfilade de bulles sur un mode, disons, peut-être plus traditionnel.
Non, ça n'aurait pas marché autant. Ça n'aurait pas marché autant.
Non. C'est vraiment, je pense qu'ils ont saisi dans Barney et la note bleue la forme, j'oserais dire, parfaite pour ce qu'ils avaient.
Oui, et la BD permet ces mutations-là, justement, permettent d'aller jouer avec la forme et avec le fond pour aller tirer le maximum de ces codes-là pour les adapter aux besoins. Donc, on n'a pas besoin des phylactères pour avoir une BD, on n'a pas besoin d'avoir une séquence pour avoir nécessairement une BD si on évoque la séquence dans l'illustration ou si on l'intègre, on peut avoir une séquence qui est très prolongée autant qu'une séquence qui est très courte dans la durée. Donc, on peut avoir un récit sans personnage formel. Il y a joué un peu avec l'adaptation entre les textes et entre les images. Je veux dire, il y a quand même une belle variété de manipulations qu'on peut faire avec le code et que, visiblement, mais dans le fond, beaucoup de créateurs au fil des 102 dernières années, 103 dernières années, se sont donné cette liberté-là aussi. Parce que tout ce que tu nous as fait lire, ça reste de la BD. C'est de la BD.
On va statuer, là.
Moi, je statue. C'est de la BD.
Ben, ça reste tous des héritiers de l'image d'Épinal. Je veux dire, c'est directement la poursuite de cette tradition-là. Et qu'est-ce qu'est l'image d'Épinal, sinon, je veux dire, de la proto-BD, là, dans la même mesure que, bon, Raymond nous avait mis au défi également, il y a quelques clubs de ça, avec, bon, des formes d'expressivité où il n'y avait pas de cases, où il y avait complètement autre chose. Et on s'est demandé, est-ce que c'est de la BD, est-ce que ça n'en est pas? Je pense qu'ici, on arrive au même point. Est-ce que c'est de la BD mutante? Indéniablement, mais je veux dire...
Quand bien même que c'est plus proche des marges, ça reste de la bande dessinée, mais ça me rappelle quand même une discussion qu'on avait eue à propos d'une certaine œuvre québécoise, Marco, et tu sais de laquelle je parle, là, les trois carrés de chocolat, d'une certaine manière, elle, à sa manière, j'ai décidé que ça m'était une, en tant que telle, tu sais, on a eu cette discussion-là, mais elle aussi questionne, finalement, ces œuvres-là que tu nous as fait lire, questionne au bout du compte, c'est quoi aussi la BD? C'est très... C'est ne serait-ce que pour ça, on pourrait les mettre dans les marges du genre.
C'est pour ça que ça fait avancer le médium.
Oui, exactement.
Ces expérimentations. Moi, je me rappelle de la sortie francophone de Akira. Ouais. C'était un des premiers mangas qu'on avait sur
Black. Le premier,
puis là, le découpage, là, on est tous tombés à terre. Et un an plus tard, Marini sortait son Gypsy. Marini qui s'était mis à raconter des histoires en version, pas manga, mais il utilisait beaucoup pour l'action, son découpage à la japonaise. Et ça a influencé jusqu'à maintenant un paquet de trucs. Ah. Alors, oui, c'est des mutants et tout. Oui, ces expérimentations-là, elles sont poussées. Mais c'est ce qui fait avancer le médium.
Alors, je rappelle les titres qu'on a lus avec ce club de lecture, donc avec la thématique Les Mutants qui était proposée par Marco. Alors, on a lu Barney et la note bleue de Philippe Parigot et Loustal chez Casterman. On a lu La Cage de Martin Vaughn James au Québec chez Mécanique Générale en France aux impressions nouvelles. On a lu Denis de Menes, donc l'année 1951-52, compilation qu'on retrouve chez Fantagraphic Books. Et on a lu ou regardé La Passion d'un homme de Franck Masserel, qu'on peut retrouver notamment dans le recueil Gravure Rebelle chez L'Échappée. Il y a aussi, je pense, une grosse compilation des œuvres de Masserel qui existe également chez vos libraires préférés, peut-être, ou sur le web ou ailleurs, sait-on jamais. Alors voilà, je remercie mes collègues de ce club de lecture. Donc, Jérôme Vermette, Édouard Tremblay, Marco Duchesne, merci à vous trois.
Un plaisir, comme toujours.
Et on se revoit le mois prochain. Alors, c'était Raymond Poirier au micro. Voilà qui termine cette édition de La Vie en BD. Et je vous souhaite une excellente semaine.